Il est 17h à Nice et 15h en temps universel. C'est l'heure du journal présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. À la une, le recueillement à Graz après la fusillade mortelle dans un établissement scolaire qui a fait 9 morts. Le deuil national est instauré en Autriche jusqu'à vendredi. Reportage dès le début de ce journal. Alors que les bilans meurtriers s'enchaînent à Gaza, l'Israélien Ehud Olmert et le Palestinien Nasser Al-Qidwa tentent, vaille que vaille, de promouvoir la paix et une solution à deux États. Ils étaient les invités d'Arnaud Pontus ce matin. Extrait à suivre. Enfin, la pêche illégale, c'est le Far West des mers. Des réseaux criminels y pullulent et il faut les stopper de toute urgence. Voici le constat dressé à Nice, au sommet de l'ONU sur l'océan. Le choc est immense en Autriche au lendemain de la fusillade mortelle dans l'un des pays les plus sûrs au monde, jusqu'ici largement épargné par la violence. 9 personnes tuées dans l'établissement scolaire de Graz. Le tireur s'est ensuite suicidé. Un deuil de 3 jours a débuté ce matin. Dans cette ville du sud-est de l'Autriche, la population demande à se recueillir dans l'intimité. Un reportage signé Simon Le Baron de France Inter pour RFI.
Une grande bâche blanche a été tendue devant le portail pour préserver les élèves, les parents, les professeurs du regard des caméras installées sur le trottoir d'en face. On distingue des fleurs, des bougies, des sanglots étouffés s'en échappent. En repartant les yeux rougis vers la salle de spectacle où ils sont pris en charge juste à côté, se tenant par les épaules, tous refusent de parler. Le porte-parole de la Croix-Rouge, Stéphane Lezeris, traverse la rue pour demander aux journalistes de respecter leur intimité.
Je sais que certains aimeraient voir ce qui se passe derrière moi. C'est une image de souffrance, une image qu'il ne faut pas montrer à tout le monde. C'est le genre de situation auquel les services d'urgence se préparent en pensant que ça n'arrivera pas vraiment. L'inimaginable a eu lieu à Graz.
Les victimes avaient pour beaucoup 15, 16, 17 ans, parmi lesquels ce jeune Français dont les parents sont installés ici depuis de longues années. Une banderole fixée sur le grillage clame en blanc sur fond noir « Graz est solidaire ». Solidarité qui s'est encore manifestée ce matin par une minute de silence observée dans tout le pays. Graz, Simon Le Baron, France Inter pour RFI.
En France, une minute de silence sera observée demain dans tous les établissements scolaires. Hommage à la surveillante tuée par un collégien hier à Nogent dans le nord-est du pays. Le Premier ministre François Bayrou souhaite l'expérimentation de portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. En Pologne, le gouvernement pro-européen obtient la confiance du Parlement. Un vote qui permet à Donald Tusk d'assurer sa position après la victoire du nationaliste Karol Nawrocki à la présidentielle il y a 10 jours. Le bras de fer s'annonce tendu, tant les positions du Premier ministre et du Président sont opposées sur les questions de société, d'état de droit et de politique étrangère. Aucun progrès en Ukraine sur le front des négociations. Les bombardements russes sont incessants, ce qui n'empêche pas les échanges de prisonniers de se poursuivre. C'est le seul domaine où les deux pays parviennent tant bien que mal à coopérer. Kiev a récupéré aujourd'hui plus de 1200 corps de soldats. Et des soldats grièvement blessés doivent être rapatriés de part et d'autre demain. À Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné des violences insensées en Irlande du Nord après 2 nuits d'émeutes qui ont visé des immigrés. 17 policiers ont été blessés. La police évoque des violences racistes après l'inculpation de 2 adolescents d'origine étrangère pour la tentative de viol d'une jeune fille. À Gaza, une nouvelle fois, un incident aux abords d'un centre d'aide alimentaire vire au drame. Affamés, des Palestiniens ont tenté d'entrer dans un entrepôt de colis alimentaires. L'armée israélienne parle de tirs de sommation pour éloigner des suspects. Le bilan est très lourd. La défense civile dénombre 31 morts et 200 blessés. Les incidents mortels s'enchaînent depuis que l'aide humanitaire est gérée par une organisation au financement opaque, inexpérimenté, soutenue soutenue par les États-Unis et Israël. Ehud Olmert, ex-premier ministre israélien, et Nasser Al-Kidwa, ancien chef de la diplomatie palestinien, sont de passage à Paris pour défendre un plan de paix à deux États. Seule solution, disent-ils, pour sortir de cette impasse meurtrière. Ils étaient les invités d'Arnaud Pontus ce matin sur RFI. Nasser Al-Kidwa insiste sur la nécessité de nouveaux leaders des deux côtés pour parvenir à la paix. Mahmoud Abbas est à la tête de l'autorité palestinienne depuis 2005.
Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de changement concret des deux côtés s'il n'y a pas un nouveau leadership palestinien et un nouveau gouvernement israélien. Nous ne pourrons pas avancer. Par ailleurs, c'est le droit du peuple palestinien de trouver de nouveaux visages, d'avoir un petit peu de sang neuf. On ne peut pas rester au pouvoir pendant 20 ans, avoir 90 ans et toujours détenir tous les pouvoirs. Non, ça, ce n'est pas positif, ce n'est pas judicieux et je pense que la situation doit changer.
Entretien avec Arnaud Pontus à retrouver en vidéo sur notre site RFI.fr. Le Premier ministre israélien tente de sauver sa coalition. Le parti ultra-orthodoxe Chass menace de faire tomber le gouvernement en votant aujourd'hui en faveur d'élections anticipées à la Knesset. Il lance un ultimatum à Benjamin Netanyahou, sommet de confirmer le maintien de l'exemption du service militaire pour les juifs ultra-orthodoxes. Alors que certains membres du Likoud poussent pour leur enrôlement, un bras de fer qui pourrait encore traîner en longueur, ce vote devra être confirmé 3 fois pour être effectif. À Los Angeles, la nuit s'est déroulée sous couvre-feu, instauré par la maire de la ville, alors que les manifestations parfois violentes, se sont enchaînées depuis vendredi dernier pour dénoncer les raids de la police de l'immigration. 25 personnes ont été interpellées cette nuit, mais il n'y a pas eu d'incident grave. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan se poursuit à Nice. L'un des objectifs de la France est de renforcer la lutte contre la pêche illégale au niveau mondial. Le pays lance aujourd'hui un appel aux États pour qu'ils s'engagent et ratifient les différents traités internationaux existants pour mieux encadrer les pratiques de pêche. Dans le monde, un poisson sur 5 est pêché sans autorisation. Il n'est pas déclaré, dissimulé par des bateaux sans pavillon, avec des répercussions sur l'environnement, l'économie, mais aussi les pêcheurs eux-mêmes. Jeanne Richard.
La pêche illégale, c'est 15 à 20 milliards d'euros de pertes pour l'économie mondiale. C'est une pêche qui ne respecte pas les aires marines protégées, qui vide les poissons de l'océan sans restriction, prive les petits pêcheurs de leurs ressources et met à mal les efforts de protection. Amélie Giardini de l'Environmental Justice Foundation explique que c'est aussi une pêche qui recourt à l'esclavage.
On a chaque année 128 000 pêcheurs qui sont en situation de travail forcé et 100 000 pêcheurs qui meurent dans le cadre de leur travail chaque année. Vous allez avoir souvent des travailleurs d'Asie du Sud-Est, alors souvent Indonésie. Et ce qu'ils disent, c'est on m'a dit que j'allais aller 2 mois en mer, que j'allais être payée et quand je suis arrivée à bord, on m'a confisqué mon passeport et puis on m'emmène en mer et parfois je revois ni ma famille ni la côte pendant des années.
À bord, ces pêcheurs sont souvent maltraités, battus, mal nourris.
La pêche, c'est le Far West. Il y a une opacité terrible parce qu'en fait, on a des réseaux criminels organisés derrière toutes ces activités et la Chine est notre premier problème.
Les flottes taïwanaises ou sud-coréennes sont également pointées du doigt, parfois cachées derrière des pavillons d'autres pays ou des sociétés écrans.
Le plus grand événement européen dédié à la tech a ouvert ses portes ce matin à Paris, au salon Vivatech. Plus près de 14 000 startups attendues jusqu'à samedi. Nicolas Feldman.
Quand on parle ici de tech et d'intelligence artificielle, Nvidia, leader mondial des semi-conducteurs, est incontournable. Ces puces, elles sont indispensables pour développer des modèles d'IA génératifs, pour équiper les robots ou encore les voitures de demain. Pendant près de 2 heures, devant une salle comble, Jensen Huang, patron d'Nvidia, a présenté les toutes dernières avancées du groupe. Mais il a aussi parlé de ses ambitions pour l'Europe D'ici 2 ans, Nvidia veut multiplier par 10 les capacités de calcul de l'IA sur le continent. Une 20aine d'usines, des gigafactories, vont être construites en Europe. Des usines qui sont essentielles pour rivaliser face aux États-Unis ou à la Chine. L'engagement d'Nvidia en Europe qui va aussi se matérialiser avec un nouveau partenariat avec le champion français de l'IA, Mistral AI. Pour schématiser, Nvidia va livrer ses puces. Mistral s'occupera ensuite de tout le reste. L'intérêt, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur pour développer une IA opérée et hébergée en Europe. De grandes multinationales et des laboratoires se sont déjà engagés à utiliser dès l'année prochaine cette IA Made in Europe.
Tout de suite sur le Pont des Arts avec vous, Nathalie Amar. Bonjour.
Bonjour Karine Melicha, 17h10.